Vous écoutez RTL.
Allez, comme en Afrique où les visiteurs cherchent les 5 grands, les 5 big, hein, les éléphants, les rhinocéros, etc. Il existe en Europe des animaux fabuleux qui font venir les touristes et rêver les autres. Avec Marc Giraud, une voix familière des curieux sur RTL qui est naturaliste.
Salut Marc.
C'est l'heure de la grande épopée du retour du sauvage dans nos paysages. Bonjour Marc.
Alors, oui, on va changer de faune.
Gardez-vous.
On va changer de faune.
C'est ça. Gardez-vous pour tout à l'heure avec
non,
le
non,
brame
du cerf. Non, je ne ferai pas le brame du cerf, ça c'est sûr. C'est pour ça que je l'ai offert mon grand moment et ce sera tout.
Vous parlez du retour des grands animaux, mais ils étaient partis ces grands animaux.
Ah oui, on ne se rend pas compte de ce qu'on a perdu. Il y a 2000 ans, sur nos plages, il y avait des milliers de phoques à la place des vacanciers. Il y avait des tortues qui pondaient, on voyait des baleines.
Sur nos plages en France, oui.
Oui, bien sûr, partout en France. Dans nos forêts, il y avait des bisons, des aurochs, des élans. Enfin, il y avait des choses il y a seulement 2000 ans. Hein. Il y avait des ours, des loups sur toute la France, en Bretagne, partout. On a tout perdu, ou presque. Et à partir de quelques îlots, c'est revenu. Et en ce moment, on assiste à ce qu'on appelle en bon français le rewilding, le retour du sauvage. Et là, c'est vraiment une bonne nouvelle. Parce que dans la nature, il y a tellement de mauvaises nouvelles. J'ai voulu faire un livre beau et optimiste. Parce qu'il n'y a quand même pas que des mauvaises nouvelles.
Ouais, c'est vrai. Allez, en route pour un safari dans notre si belle France. On va tomber sur un lynx, la panthère européenne.
Génial.
À tout de suite, les curieux.
La réintroduction est quelque chose de faisable. On l'a démontré avec un certain nombre d'espèces. On a réintroduit le lynx en France. Ça fonctionne.
RTL.
L'idée, c'est donc d'étudier la population sauvage et de comprendre si elle se stabilise. Thomas Hugues, Anaïs Bouton.
Ils sont capables de défendre leur territoire et de rester entre eux.
La curiosité est un vilain défaut.
Mais qu'on est bien sur RTL avec vous les curieux et avec Marc Giraud, naturaliste qui publie Big Five, le retour des grands animaux sauvages aux éditions de Lachaud et Nestlier. Alors le livre est tellement...
Nestlé, mais on n'était pas loin. Il y avait toutes les lettres, mais pas dans le bon ordre.
C'est pas grave. De Lachaud, allez, de Lachaud.
Le livre est tellement magnifique qu'on va vous le faire gagner, les curieux.
Ah,
comment
ça,
on
c'est
fait,
une belle idée,
Thomas,
ça.
Vous savez, ça
tiens, on choisit en fonction, mais là aujourd'hui c'est Facebook, tiens, c'est le réseau social. Vous allez sur la page Facebook de la curiosité.
Ah oui, et on va savoir si vous suivez bien la curiosité.
Ah voilà, il fallait nous écouter vendredi avec François Lasserre, qui est un bon copain.
Ah bah oui, bien sûr, oui.
Lui aussi entomologiste et naturaliste.
Qui a parlé de fourmis, oui.
Voilà, ah bah là vous venez
ah bah
donner
non,
la réponse à la question.
Bon bah alors donc...
On va inventer
bah j'ai gagné.
J'aime les fourmis, elles aillent très
c'était
bien.
C'était quel animal se fait sauter, bah voilà.
Ah d'accord, bah alors le titre de son livre.
Allez, voilà, vous nous trouvez le titre de son livre, c'est super facile. Et il faut aller sur la page Facebook de l'émission pour répondre à la question et pour gagner le livre de Marc Giraud. Ça, c'est fait.
Allez,
alors, les lynx.
On
allez.
Commence notre safari par les sentiers de montagne de France et on tombe sur le lynx. Alors, c'est quoi un lynx et c'est quoi son territoire?
Ah, c'est beau. D'abord, c'est notre panthère européenne, c'est notre grand félin. On n'en a pas 36. On
ça
a un
tête petit chat. Non
de petits chats à la taille d'un berger allemand.
Oui.
Alors c'est pas redoutable non plus, c'est pas la taille d'un tigre, hein, mais c'est une bonne petite bête qui est capable d'attraper des chevreuils. C'est presque l'essentiel de son menu, le chevreuil. Donc ça a des grandes pattes très très larges qui sont capables d'aller dans la neige, qui font à peu près une pression de 40 grammes au centimètre. C'est-à-dire c'est très large comme des raquettes, alors qu'un jeune cerf c'est 144 grammes. Donc c'est comme s'il marchait avec des talons aiguilles dans la neige. Donc quand un lynx poursuit un cervidé, c'est sûr
c'est
que le lynx a quelques
années.
Voilà.
Je pense qu'il va y avoir une vanne par animal. Je m'y suis préparé, mais bon, c'est comme...
C'est plein de sens cachés.
Ouais, mais bien sûr, c'est pour ça que c'est drôle. Il a aussi des oreilles particulières, le lynx, il faut nous les décrire. Et à quoi sert cette particularité?
Alors, il a des petits poils qui dépassent des oreilles, un peu comme les écureuils, qu'on appelle des pinceaux. Et on ne sait pas trop à quoi ça sert. C'est peut-être un signe de ralliement ou une espèce de radar pour sentir le moindre courant d'air, ce qui les rend extrêmement sensibles à leur environnement. Mais ça, c'est des suppositions. On ne sait pas, on n'est pas à leur place.
Hein. Alors, il a aussi un œil de lynx.
Ah ben oui, pourquoi on dit ça?
Alors ça, c'est un petit peu une légende. C'est vrai qu'il voit mieux que nous la nuit, mais comme tous les mammifères. Hein. Mais il voit moins bien les couleurs. Il n'a pas un regard super perçant. En fait, ça vient de l'œil de Lyncée, qui était un navigateur grec du temps de Jason et les Argonautes, qui avait la réputation de voir au fond des mers, derrière les nuages et les montagnes. Et Lyncée, ça s'écrit en latin « Lynceus », pareil que lynx, donc « œil de Lyncée » est devenu « œil de lynx ». Donc en fait, c'est une légende.
Alors
ça,
d'accord.
C'est super d'apprendre ça.
Alors, si on doit le décrire aussi, il a des griffes, il a des...
Rétractiles, oui, comme
dents.
Les chats.
Alors, expliquez-nous.
Bah, c'est un carnassier, donc il a des griffes rétractiles, comme les chats. C'est-à-dire qu'au repos, elles sont rentrées, mais il peut les sortir, notamment quand il attaque du gibier, évidemment, ce qui fait qu'il est extrêmement performant. Alors qu'un loup, par exemple, il a des griffes comme un chien, et c'est pour ça que les loups chassent plutôt en meute, ils sont moins performants qu'un félin. Donc ça fait des différences, et ça fait aussi qu'ils ne sont pas tout à fait en concurrence sur les mêmes animaux, ni avec les mêmes méthodes. Donc c'est un carnassier, ça se voit aussi à ses dents, évidemment, très très pointu. Donc c'est un carnassier strict.
Ah, c'est-à-dire quoi ça ? C'est l'anti-vegan.
Ah oui, complètement. Alors lui, pas vegan du tout. Il ne chasse que ce qu'il a attrapé. Il n'est même pas charognard comme la plupart des carnivores. Un animal déjà mort, ça n'intéresse pas. Donc il ne prend que ce qu'il a chassé lui-même.
Et qu'est-ce qu'il fait de ses dépouilles, justement ?
Alors, ça peut servir à d'autres, aux renards et aux autres. D'ailleurs, il y a une petite concurrence entre eux. Et c'est sa manière de les éplucher, un peu comme des bananes, qui est très... Si vous voyez sur le terrain, on voit très bien la proie d'un lynx. Ah oui. Parce qu'en fait, il attaque d'abord les muscles et il retrousse la peau comme ça vers la tête jusqu'à la recouvrir. Donc voilà, il l'épluche et après il fignole, il ne reste plus que les os. Donc quand vous voyez une carcasse comme ça, c'est sûr, c'est un lynx.
Et il la planque sous des feuilles, c'est ça ?
Oui, il la cache. Oh, oui.
Parce que lui, pardon Thomas, il est carnivore strict, vous dites, mais il y a d'autres animaux qui sont des charognards, qui sont revenus aussi. Alors c'est quoi par exemple ?
Alors,
le vautour ?
Oui, c'est ça. Il y a toute une guilde d'animaux qui reviennent et qui sont complémentaires, qui cèdent. C'est-à-dire qu'il y a les carnassiers comme le lynx qui attrape les animaux, il y en a qui en profitent comme les renards et d'autres, et maintenant il y a le retour des grands vautours évidemment, et il y a le retour du chacal. On a vu un chacal pour la première fois en France, enfin vu, photographié avec une caméra automatique en décembre 2017. C'est le retour du chacal. Alors il y en avait aux Pays-Bas, en Suisse, en Italie, il y en avait tout autour de nous, et là ils arrivent, mais naturellement, hein, comme le loup, personne ne les a mis. Hein.
Ouais. Et d'un mot, Marc Giraud, le lynx dont on vient de parler pendant quelques minutes, on peut le trouver où en France ?
Alors on en a, il y en a plus qu'une centaine, et surtout dans le Jura. On en a réintroduit 21 dans les Vosges françaises, qui se sont reproduits. Ils ont tous été braconnés, il n'y en a plus un. Tous tués comme ça, parce que dans les Vosges, on tire depuis des Miradors, donc c'est facile de les braconner. Et heureusement, en Allemagne, on les réintroduit dans le Palatinat, de l'autre côté de la frontière, et deux lynx allemands sont arrivés chez nous. Espérons qu'ils seront mieux accueillis.
Et ben, on espère aussi avec vous, Marc Giraud. Dans un instant, comme promis, il est là. Vous l'avez reconnu, ce n'est pas Thomas Hugues, c'est le cerf, le brame du cerf, l'histoire du cerf dans nos forêts à venir.
À l'aube d'un nouveau jour qui se lève,
RTL.
La forêt s'éveille au son d'un rerre puissant qui, depuis la nuit des temps, nourrit les fantasmes des hommes. Et pour combien de temps le cerf, symbole d'un monde sauvage et libre, continuera-t-il à nous faire rêver par sa puissance ?
La curiosité est un vilain défaut. Avec Anaïs Bouton et Thomas Hugues.
Marc Giraud, vous êtes naturaliste et vous avez embarqué tous les curieux d'RTL avec nous en safari. Et paf, on tombe sur un cerf. Alors, on connaît sa silhouette ocre et magnifique qui orne les grottes de Lascaux. Combien il y en a encore en France des cerfs ?
Oh là, il y en a 200 000 à peu près, je pense. On en tue 50 000 à la chasse. Donc c'est très régulier quand même. Il est de retour parce qu'il a failli disparaître après la Révolution.
Ça.
C'était gibier royal. Et quand tout le monde a eu des fusils, on s'est défoulé. Et là, il n'y en avait plus que quelques tout petits îlots en France. Et à partir de 1950 à peu près, on les a réintroduits. Ça prouve que les réintroductions marchent. Et que maintenant, il y a beaucoup de cerfs dans un peu toutes les forêts de France.
Alors ça va évidemment vous hérisser, je dis ça. Mais est-ce que ce n'est pas aussi un rôle bénéfique des chasseurs ? Une chasse
régulée.
Ah
oui, vous cherchez là.
Oui, je sais bien, dans le cas
alors,
du cerf.
Justement, le retour des animaux sauvages, c'est le retour d'un équilibre. Quand il y a des loups et des lynx et des prédateurs en général, même des ours, ça régule naturellement les animaux. Les Indiens disent que le loup, c'est le médecin de la forêt. Et le lynx, c'est l'allié des forestiers, justement. Parce qu'en éliminant les chevreuils, il les fait bouger. Donc, il n'y a pas de surpâturage, mais de surbroutage d'écorce ou de choses comme ça. Donc, il y a un équilibre naturel.
C'est les joies de l'écosystème.
Voilà. Alors, la différence avec le chasseur humain, c'est que le chasseur humain va tuer les plus beaux animaux. Donc, il fait une sélection naturelle à l'envers. C'est-à-dire qu'il sélectionne les plus faibles. Alors que le prédateur naturel, lui, il va à l'économie, il va chasser les plus faibles. Donc, il va éliminer les épidémies.
Le chasseur sélectionne le plus fort, lui.
Ouais, voilà, le chasseur français.
Bon, alors on va que les pas chasseurs dans un débat sur la chasse, mais bon.
parce que vous me cherchez, vous me trouvez.
Oui, non, mais bon, mais il ils ont le droit de tuer tant de...
Oui, oui, ça, ils ont le droit. Oui, bon, oui. Voilà, allez, c'est surveillé quand même.
Voilà, alors, il y a des bracelets régulés.
Quelle tête ça a ? Un cerf, ça pèse combien ?
Voilà, c'est énorme. C'est notre plus grosse espèce d'ongulé quand même. Donc, ça fait quand même 200 kilos. Plus de 2 mètres 30 de longueur. Donc, c'est le double du chevreuil, hein, le cerf. C'est très, très, très fort. C'est pour ça que là, le brame, on vient de l'entendre, c'est quasiment fini dans les forêts. Oui. Mais faut pas aller les chercher à ce moment-là. Parce qu'ils
viennent dingue, ils viennent dingue, c'est ça ?
Alors, ils sont fous. Ils sont fous d'amour. Ils sont ivres de testostérone. Ils sont vraiment camés à la testostérone. Mmh. Donc, ils urinent partout. Ils éjaculent dans les airs. Ils n'en peuvent plus. Ils foncent dans les buissons. Ils se décorent les bois avec des. Ils ressortent avec des fougères. Et ça sent le musc quand vous allez sur une plage, une place de brame. Oui. Ça sent vraiment très, très fort. Mais c'est ça qui plaît aux filles. C'est comme ça que.
Alors, qu'est-ce qui fait ? On dit que leur brame. Qu'est-ce qu'il fait leur brame aux filles ?
Eh ben, il fait ovuler les. C'est un sacré sacré crooner. Hein. Il fait ovuler les biches. Mais ça leur permet d'arriver en même temps au moment de l'accouplement. Ça synchronise leur cycle. Donc c'est important tout ça.
Comment il va faire ? Il va se battre. Ils vont se battre ensemble.
Oui.
Hein, c'est ça.
De temps en temps. Oui. Pour...
Et puis celui qui gagne va saillir. Toutes les biches.
Ah oui, oui, voilà. Et les autres, c'est ceinture. Hein. C'est comme ça. Oui, oui, parce que chez la plupart des ongulés, hein, c'est le mâle qui va gagner le harem, qui va saillir toutes les biches. Et les autres, bah, ils essaieront l'année prochaine, si tout va bien. Ça sera
mais
leur tour.
Mais qu'est-ce qu'ils font de leur.
Eh bah, bien, justement, c'est un peu dans les airs, c'est un peu partout.
Ah, d'accord. Ah, c'est pour ça, oui, d'accord.
Je suis en train de me couper les ongles.
Ils seront, j'ai les nerveux.
Le cerf qui a des performances, je ne parle pas de performances sexuelles, mais c'est un athlète. Jusqu'à quelle distance, hauteur peut-il sauter? Après la fourmi qui se fait sauter, le cerf.
Ah bah alors il peut bondir de 14 mètres de long quand même et 3 mètres de haut. C'est très 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 souple.
Et alors il a une vision panoramique, il peut voir arriver.
Oui, il a les yeux sur le côté, bah comme les souris, comme les chevaux, comme toutes les proies finalement. Il a les yeux sur le côté, comme ça il voit derrière lui, ce qui lui permet de voir un prédateur arriver même quand il broute. Ça c'est très pratique.
Marc Giraud, ces grands animaux sauvages sont de retour. Big Five, c'est le titre de votre livre publié chez Delachaux et Niestlé avec une préface signée Jacques Perrin. Vous avez d'ailleurs un beau projet avec Jacques Perrin, dont on parlera dans un instant. Et puis alors, on va lever les yeux vers le ciel. Voilà un aigle. On vous le présente dans un instant.
RTL. La curiosité est un vilain défaut. Anaïs Bouton, Thomas Hugues.
Et toujours avec nous, le naturaliste Marc Giraud. Marc, qui est un habitué de la curiosité, l'un de nos sociétaires. On vous retrouve aussi demain dans l'émission de Stéphane Bern. Voilà. Et qui sera l'invité ?
Laurent Deutsch.
Ah ben voilà, ça fait un coup de promo pour l'ami Stéphane Bern. Et on a fait gagner votre livre Big Five, le retour des grands animaux sauvages. Je montre juste à ceux qui nous suivent sur RTL.fr une photo, elle est magnifique, c'est une photo d'aigle. Voilà, vous avez choisi les photographes.
Ah oui, je suis allé les chercher personnellement, des gens qui sont sur le terrain. Il y a des photos de loups, par exemple, qui ont été pris dans les Abruzzes en Italie, de lynx, mais sauvages. C'est très très difficile à prendre. Donc, c'est ce qu'on appelle un beau livre quand il y a beaucoup de photos, mais là, c'est un beau livre.
On est d'accord. Et bravo à Alexandre Benoît Berrurier qui vient de le remporter en jouant sur la page Facebook de la Curiosité. Allez, on parle des aigles.
Alors rapidement, l'aigle. Quelles sont ses caractéristiques principales? Ces plumes, notamment cette mécanique inouïe.
C'est vraiment une mécanique, c'est ça. C'est ça, c'est une mécanique de vol d'abord, une mécanique de chasse. Enfin, c'est vraiment un emblème royal. Il y a des oiseaux plus grands, le vautour c'est 2,80 m, lui c'est un petit peu moins, c'est 2,20 m d'envergure. Mais c'est vraiment un symbole très très puissant de la force guerrière et de l'élégance en même temps.
Parce qu'il a des plumes qui lui servent à se diriger, c'est ça?
Ah bah oui, la queue ça fait gouvernail. La tête, par exemple, l'air féroce des rapaces. Vous savez, on dirait qu'ils froncent les sourcils, mais en fait, c'est une arcade sourcilière. C'est comme une casquette anti-soleil. Ça les protège du vent et du soleil. C'est les grands voiliers qui ont ça. Et les serres, alors c'est puissante. C'est activé par des tendons qui sont aussi résistants que des câbles électriques, hein, avec un pouce qui est opposable, qui comme un poignard, qui tue net la proie. Hein. Il y a pas de souffrance. Ça va très vite.
Et vous nous avez expliqué tout à l'heure que l'expression œil de lynx ne venait pas de capacité particulière du lynx. En matière de vision. En revanche, on pourrait dire avoir un œil d'aigle.
Ah oui, ils ont des yeux remarquables. Un aigle pourrait voir une souris depuis le haut de la tour Eiffel, par exemple. Leurs yeux sont énormes, ils ont une forme de poire, donc ils ne peuvent pas tourner. Ce qui fait que les rapaces peuvent tourner entièrement la tête, puisque les yeux ne tournent pas. Ils peuvent vous tourner le dos, mais vous regarder de face en même temps. C'est très très souple du coup, vous voyez ce que je veux dire.
Oui, bien sûr.
Et en toute proportion, si un humain avait les yeux aussi gros que l'aigle, il aurait des yeux gros comme des pamplemousses à l'intérieur. Donc c'est vraiment très très basé sur la vue, évidemment.
Et l'aigle, est de retour lui aussi. On peut avoir un message optimiste sur l'aigle.
Oui, parce qu'il a été relégué dans les montagnes, mais c'est aussi un oiseau de plaine. Donc, par exemple, il y en a dans le Massif central qui commence à nicher dans des arbres, comme ça fait ailleurs. Mmh. Et les aigles sont de retour enfin.
Allez, ce projet avec Jacques Perrin, on peut vous aider à réaliser. C'est un projet que je trouve qu'on trouve avec Anaïs génial. Dites-nous tout, Marc.
Alors Jacques Perrin, oui, c'est le parrain des réserves de l'ASPAS, donc l'Association pour la protection des animaux sauvages. Mmh. Entièrement à but non lucratif, mais on a besoin d'argent pour acheter carrément des morceaux de montagne. On l'a déjà fait. On a plusieurs centaines d'hectares, presque 1000 hectares maintenant. Et là, on a un projet fabuleux dans le Vercors. C'est magnifique. Il y a plein de cerfs. Il y a peut-être des prédateurs qui arrivent. Et ce qu'on veut, c'est libérer la nature de la chasse, de la sylviculture, de toute exploitation mercantile. Donc, si vous voulez faire quelque chose pour la nature, donnez ce que vous pouvez. On avait besoin de quand même 2,5 millions. Il nous manque plus que 250 000. C'est presque rien. Mais avant fin novembre. Donc, si vous participez.
Où est-ce qu'on trouve les renseignements ?
Alors sur l'ASPAS, aspas-nature.org, et là vous trouvez
tous les
comment participer et faire quelque chose de concret, parce qu'il faut des espèces, mais il faut aussi des espaces.
Eh bien, on l'a compris, aspas-nature.org. Nature.org, on vous remet l'adresse sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup,
merci.
Marc Giraud. Le titre de votre livre, Big Five, c'est publié chez Delachaux et Niestlé. Fin de cette émission.
Thomas Hugues, Anaïs Bouton.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.